Bon réveil si vous nous rejoignez, le journal Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un premier revers pour le milliardaire Donald Trump dans la course pour la Maison Blanche. C'est finalement Ted Cruz, candidat ultra-religieux, qui remporte la primaire républicaine dans l'état de l'Iowa aux États-Unis. Chez les démocrates, Hillary Clinton devance à peine Bernie Sanders. Nous irons à Des Moines dès le début de ce journal avec notre envoyé spécial Frédéric Carbone.
Une première chez les plus hauts magistrats de France. Les présidents des cours d'appel et de la cour de cassation expriment publiquement leur inquiétude par rapport à l'état d'urgence.
Des éleveurs de porcs français déposent une plainte contre l'Allemagne. Berlin accusé de dispenser ses éleveurs de TVA. Concurrence déloyale. Explication d'Anne-Laure Chouin dans ce journal. Son profil ultra-religieux a donc séduit les électeurs de l'Iowa, état rural du Midwest américain. Ted Cruz a remporté cette nuit la première primaire républicaine pour l'élection présidentielle aux États-Unis. Direction Des Moines avec vous, Frédéric Carbone. Vous suivez cette élection, ce caucus dans l'Iowa pour France Culture. Ted Cruz, candidat conservateur, a donc fait mentir les sondages qui donnaient le milliardaire Donald Trump vainqueur.
Oui, mais c'est le profil classique du vainqueur de l'Iowa, vous l'avez dit, ultra-conservateur, très religieux, dans un État où les chrétiens évangéliques représentent près de 60% de l'électorat républicain. Eh bien, c'était Huckabee en 2008, Santorum en 2012, c'était Cruz cette fois-ci. Les sondages, bien sûr, donnaient Donald Trump, et Donald Trump n'est que deuxième. Donald Trump, il avait dit « je vais gagner l'Iowa, je vais tout gagner ». Ça ne veut pas dire que là, il a tout perdu, mais c'est la première fois que dans cette campagne, il est fragilisé, pas par des attaques de ses rivaux, mais par les électeurs, ceux de l'Iowa, qui lui disent « attention, la politique, c'est un métier, et peut-être qu'il faut encore apprendre un petit peu ». Il était d'ailleurs assez modeste la nuit dernière en disant « je suis très honoré d'être deuxième ». Mais il faut parler chez les Républicains du troisième homme, qui est peut-être le vrai vainqueur de cette nuit, parce qu'on ne l'attendait pas. Marco Rubio, le sénateur de Floride, talonne réellement Donald Trump. On ne l'attendait pas à ce niveau-là, et ça veut dire que les Républicains, désormais, en tant que candidat, je vous dirais présentable, qui peut fédérer l'establishment du Parti républicain face au milliardaire Donald Trump ou à l'ultra-conservateur Ted Cruz.
Et chez les démocrates à présent, Frédéric, Hillary Clinton et Bernie Sanders ont du mal à se départager. Le décompte des voix n'est d'ailleurs pas encore terminé.
Non, ça continue. On doit en être à 99% des bulletins dépouillés et on ne peut pas dire qui est le vainqueur. C'était le cas chez les Républicains il y a 4 ans. Il avait fallu attendre 3 jours pour savoir qui de Santorum ou Romney l'avait emporté. Et bien là, peut-être faudra-t-il attendre plusieurs jours. C'est du 50-50, mais ce match nul, politiquement, c'est une victoire pour Bernie Sanders dans l'Iowa. Une victoire dans l'Iowa qui ne veut pas dire une victoire pour la suite, parce qu'Hillary Clinton évite-t-elle au moins l'affront d'une deuxième défaite, sans doute, dans cet État. Et Hillary Clinton pense que sur le long terme, dans les prochaines primaires, elle a plus de chances de l'emporter. Ce qu'il faut remarquer, une dernière chose, Catherine, c'est le spectre politique le plus large que l'on puisse avoir avec ce résultat dans l'Iowa, quand on a un Bernie Sanders socialiste qui remporte peut-être la primaire démocrate et de l'autre côté, un Ted Cruz ultra-conservateur qui l'emporte chez les Républicains.
Merci beaucoup Frédéric Carbone en direct de Des Moines dans l'Iowa pour France Culture et les prochaines étapes dans cette course pour la présidentielle aux États-Unis. Primaire sur la côte Est en mars prochain dans le New Hampshire et la Caroline du Sud. Avant de quitter son fauteuil à la Maison Blanche, Barack Obama se dote de moyens supplémentaires pour lutter contre le groupe État islamique. 7 milliards de dollars supplémentaires pour lutter contre Daesh, augmentation de 35% par rapport à l'an dernier, de quoi financer de nouveaux mini-drones par exemple. C'est ce qu'évoque un haut responsable de la défense. Le projet de budget du Pentagone pour 2017 est dévoilé aujourd'hui. La lutte contre le groupe État islamique en Irak, en Syrie, en Libye aussi, le groupe restreint de la coalition internationale engagée contre Daesh se réunit à Rome aujourd'hui, en présence notamment de Laurent Fabius et du secrétaire d'État américain John Kerry. Au menu des discussions, le possible élargissement à la Libye de la campagne militaire contre les djihadistes. Autre rendez-vous diplomatique aujourd'hui, les discussions de paix sur la Syrie. Elles ont commencé hier à Genève. Le régime syrien a donné hier soir son accord de principe pour l'envoi de convois humanitaires dans 2 villes assiégées par les rebelles, ainsi qu'à Madaya, une ville encerclée par l'armée de Bachar el-Assad près de Damas. Madaya, où 46 personnes au moins sont mortes de faim depuis le mois de décembre. Un geste apparent de bonne volonté. Valérie Crova est l'envoyée spéciale de France Culture à Genève.
L'émissaire de l'ONU pour la Syrie peut enfin pousser un petit soupir de soulagement, lui qui œuvre depuis des mois pour réunir les deux frères ennemis syriens. Les discussions n'en sont qu'à leur tout début, certes, mais le processus est désormais lancé. Staffan de Mistura a respecté une parfaite parité. Après avoir vu la délégation du régime pendant 2 heures il y a 2 jours, c'est celle de l'opposition qui a été reçue durant la même durée au Palais des Nations. Salam Amouslet, l'un des porte-parole du Haut Comité des négociations, lui a fait part de ses priorités. Trois questions sont importantes pour nous. La levée des sièges, la libération de détenus, notamment les femmes et les enfants, et l'arrêt des attaques par les bombardiers russes et par le régime. Si l'arrêt à court terme des bombardements semble irréalisable, tout comme l'application d'un cessez-le-feu, la libération de civils aurait une haute valeur symbolique qui nous amènerait à entrer véritablement dans les négociations, confirme hors micro un membre de cette même opposition qui a commencé à dresser une liste de noms, Staffan de Mistura. Je n'ai pas encore reçu cette liste. Je l'ai demandé et je la veux. Je pense qu'obtenir une liste des personnes, en particulier des femmes et des enfants, serait un premier signal que quelque chose de différent est en train de se produire. Il y aurait près de 4000 femmes actuellement détenues dans les prisons du régime. Aucun chiffre n'est en revanche avancé pour les enfants.
Valérie Crovat, envoyée spéciale de France Culture à Genève. Après d'intenses négociations entre diplomates européens et britanniques, le président du Conseil européen, Donald Tusk, dévoile aujourd'hui ses propositions pour faire en sorte que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne et donc pour que l'Europe évite une nouvelle crise majeure. Le Premier ministre britannique, David Cameron, a obtenu la mise en place d'un mécanisme qui doit permettre à un groupe représentant au moins 55% des États membres de modifier ou de s'opposer à de nouvelles législation de l'Union. Le conservateur David Cameron espère ainsi donner plus de poids aux parlements nationaux. C'est un virus qui pourrait contaminer cette année 3 à 4 millions de personnes rien que sur le continent américain et entraîner des malformations neurologiques chez des fœtus et des bébés, des microcéphalies, des bébés nés avec un périmètre crânien trop petit face à l'épidémie de Zika qui se transmet uniquement par des piqûres de moustiques. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décrété une urgence de santé publique de portée mondiale. C'est du jamais vu pour de si hauts magistrats. Les présidents des cours d'appel et le président de la Cour de cassation ont publié hier un texte commun, un cri d'alarme sur l'état d'urgence et sur les moyens donnés à la justice. Ils estiment en fait que l'autorité judiciaire est aujourd'hui affaiblie, Sarah Guibaudot.
La colère qui s'exprime depuis plusieurs semaines chez les procureurs a gagné le plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire, ceux qui ont le plus d'hermine sur leur épaule. Leur première inquiétude, c'est la marginalisation de la justice. Avec l'état d'urgence que le gouvernement veut inscrire dans la Constitution, les assignations à résidence, les perquisitions se font à l'initiative des préfets et sous le contrôle de la justice administrative. Pour les plus hauts magistrats de France, c'est au contraire l'autorité judiciaire qui doit être garante des libertés. Les présidents de cour d'appel et le président de la Cour de cassation rappellent aussi à François Hollande sa promesse de couper le lien hiérarchique entre les procureurs et le pouvoir exécutif. Il faut pour eux que l'autorité judiciaire soit soustraite à toute forme d'influence. Enfin, ces hauts magistrats s'alarment à leur tour de la pénurie persistante de moyens matériels et humains. Pour eux, la justice ne devrait pas avoir à faire des choix, à traiter certains dossiers plus que d'autres. C'est une rupture d'égalité.
Jean-François Copé, vous êtes l'invité des matins de France Culture, membre du parti Les Républicains. Comment réagissez-vous à cet appel des présidents des cours d'appel et des présidents de la Cour de cassation qui s'inquiètent de l'état d'urgence? Vous allez voter cette prolongation de l'état d'urgence?
Alors oui, je vais voter la prolongation de l'état d'urgence, mais je pense que cette réaction des plus hauts magistrats de notre pays, du siège, c'est une réaction qui est extrêmement légitime, compréhensible et intéressante sur le fond. Elle rappelle à tout un chacun que l'état d'urgence, ça ne peut être que l'exception, ça ne peut pas être la règle. Et nous en voyons bien d'ailleurs la limite. Donc s'il est vrai que je vais la voter, faute de mieux, parce qu'aujourd'hui notre arsenal juridique et même notre organisation de sécurité n'est pas du tout adapté, pas suffisamment adapté à la menace terroriste, ça ne peut pas être la règle définitive. Dans cet esprit d'ailleurs, moi j'ai proposé dans mon livre Le sursaut français que l'on assume un recrutement massif de policiers, de gendarmes, de magistrats. Je parle du chiffre de 50 000. Non pas, bien sûr, sous forme de statut de fonctionnaire, ça n'est plus possible, on n'a pas les moyens. Mais je propose que ce soit corrélé à la fin de l'emploi à vie dans la fonction publique, pour l'avenir, naturellement, pas pour ceux qui sont déjà là, pour les nouveaux entrants. Et qu'ainsi, les Françaises et les Français qui ont envie de servir notre pays puissent, durant un temps donné de leur parcours, vous voyez, non, bien sûr, la formation qui va avec, ça va de soi. On s'improvise pas policier, gendarme, bien sûr, magistrat. Mais qu'ils puissent, à travers la formation qui est la leur, s'engager pour notre pays et ainsi contribuer à reformater complètement notre appareil régalien qui aujourd'hui n'est pas au niveau.
Jean-François Copé, membre du Parti Les Républicains.
Par rapport aux attentes, hein, bien sûr.
On vous retrouve dans quelques instants à la fin de ce journal. Qui fait quoi entre l'État et les régions en matière de chômage et d'emploi? Cette question sera au cœur du séminaire qui se tient aujourd'hui à Matignon. Les présidents des toutes nouvelles grandes régions ont rendez-vous ce matin à 10h avec Manuel Valls et 8 membres du gouvernement. Il s'agit, après les élections de décembre dernier, de préciser les compétences des régions en la matière. Et tout l'enjeu est de savoir si l'on fait un pas de plus vers la décentralisation, Stéphane Robert.
Il s'agit d'abord de recréer un climat de confiance, explique le tout nouveau président de l'Association des régions de France, l'Alsacien Philippe Richert, parce que jusqu'ici l'État n'a pas véritablement tenu ses promesses. Certes, poursuit-il, la loi sur la nouvelle organisation des territoires de la République a clarifié les compétences de la région vis-à-vis du département, mais l'État, lui, n'a rien lâché ou presque. C'est toujours lui qui décide des politiques en faveur de l'emploi. Et puis il n'a dégagé aucun moyen supplémentaire pour les régions sur le plan de la fiscalité. Rendez-vous compte, explique encore Philippe Richert. On nous demande de proposer des formations à 500 000 chômeurs. Très bien, mais quelle formation? Et avec quels moyens? Et surtout, la question est, qui pilote? Pôle emploi? On a vu que ça ne marche pas. Non, il faut que ce soit les régions. Il faut, dit-il, dès maintenant, expérimenter dans 2 ou 3 régions un transfert de compétences pour la formation des chômeurs. C'est ça qu'on attend aujourd'hui de la part du gouvernement, une véritable décentralisation. Mais ce n'est pas vraiment ce qui semble se dessiner du côté de Matignon. Oh, vous savez, il n'y aura aucune annonce, expliquent les services du Premier ministre. On n'en est qu'au tout début du processus. Ce séminaire s'annonce donc être un nouveau comité Théodule, au cours duquel on va une nouvelle fois évoquer ce qui pourrait être mis en place sans décider de le mettre en place. Parce que Pôle emploi est contre, parce que les syndicats sont contre, parce que la haute administration ne veut rien entendre quand il s'agit de décentralisation. Alors si c'est le cas, si rien de déterminant ne ressort de ce séminaire, il faudra bien se faire une raison. Que voulez-vous, conclut Philippe Richert. J'espère au moins que le déjeuner sera bon.
Sanofi présente aujourd'hui un plan de restructuration. Après différents plans qui se sont succédés depuis 2008 dans le groupe pharmaceutique, les organisations syndicales craignent maintenant des centaines de suppressions de postes. Sanofi emploie 27 000 salariés en France, 110 000 dans le monde. Le nouveau PDG du groupe veut augmenter la compétitivité des sites de l'Hexagone, Jean-Marc Chardon.
L'ambition des dirigeants de Sanofi est de conserver au groupe son image diversifiée, mais pas à n'importe quel prix. Parmi les objectifs de la direction et son nouveau PDG, Olivier Brandécourt, il y a la volonté de se recentrer sur un certain nombre d'activités, d'élargir la gamme des produits sur le diabète, se développer dans l'immunologie, la recherche sur le cancer, devenir leader dans la santé grand public. Le faire en rééquilibrant la carte des sites du groupe. Il y a les usines de l'Est de l'Europe qui enregistrent de bonnes performances, mais les sites tricolores produisent des molécules anciennes dont les ventes baissent. La direction voudrait réduire les écarts de performance en augmentant de 20 à 25% la productivité des usines et faire baisser sensiblement le coût des boîtes de médicaments. En ligne de mire, des accords de compétitivité vus avec méfiance par les syndicats. Des sites plus compétitifs, oui, mais comment y parvenir? Entre autres, en simplifiant aussi l'organisation à l'échelle mondiale, en réduisant le turnover des effectifs avec moins d'intérimaires et, au-delà, en développant les partenariats avec d'autres entreprises. Et cela de manière à coller davantage à la réalité d'un marché où l'on voit que Sanofi réalise plus des 2/3 de son chiffre d'affaires aux États-Unis et sur les pays émergents, l'Europe, elle, venant assez loin derrière, mais toutes les unités, qu'elles soient de recherche ou de production, étant fortement exposées à la concurrence.
Et toujours dans l'industrie pharmaceutique, les salariés du laboratoire Servier manifeste ce matin au siège de l'entreprise à Suresnes contre un plan de suppression de plus de 600 emplois.
8h14 sur France Culture, la suite du journal Catherine Dutu. La concurrence entre éleveurs de porc français et allemands, l'une des causes de la crise traversée en ce moment dans le secteur.
C'est en tout cas ce que pense un collectif qui s'est fédéré ces derniers jours pour déposer une plainte contre l'Allemagne. Berlin accusé de dispenser ses éleveurs de TVA. Plainte déposée après une enquête dont les conclusions seront révélées ce matin à leur choix.
D'après les présidents et directeurs de l'UGPVB, l'Union des groupements de producteurs de viande de Bretagne, depuis 5 ans, les éleveurs de porc allemands auraient bénéficié de 250 millions d'euros d'avantages fiscaux cumulés par rapport à leurs concurrents européens et notamment français. Un avantage concurrentiel couvert par l'État allemand qui aurait sciemment dispensé ces éleveurs de TVA et permis à ces derniers de proposer des prix défiant toute concurrence. Bref, une mesure de dumping que la Commission européenne n'est pas censée accepter. Les éleveurs français dénoncent régulièrement ce dumping, notamment dans le domaine social, lorsqu'ils font valoir notamment le salaire des travailleurs le plus souvent détachés qui officient dans les exploitations et les abattoirs allemands pour des sommes très basses. Cette fois, c'est sur le volet fiscal qu'ils attaquent. Une plainte qui ressemble fortement à une revanche. En effet, Bruxelles enquête aussi de son côté sur des comportements anticoncurrentiels dans les élevages français. Des comportements qui sont en fait une série de tables rondes organisées sous l'égide de Stéphane Le Foll l'été dernier pour inciter les acteurs de la filière à s'entendre sur les prix. Et justement, c'est sur des soupçons d'entente sur les prix que la Commission enquête. Ce qui a eu le don de mettre en rage les organisations syndicales visées, FNSEA en tête, la crise de l'élevage français non résolue à ce jour aura exacerbé les tensions entre la France et Bruxelles et désormais entre la France et l'Allemagne.
Et après les manifestations d'éleveurs la semaine dernière en Bretagne, le préfet estime que les différents barrages routiers ont occasionné près de 4 millions d'euros de dégâts. Un mot du 69e Festival de Cannes. Il sera présidé en mai prochain par le cinéaste australien George Miller, réalisateur de la saga Mad Max. Le temps de ce mardi 2 février, pluvieux dans la moitié nord du pays. Dans la moitié sud, alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures toujours au-dessus des normales de saison, comprises ce matin entre 6 et 12 degrés. Cet après-midi, entre 10 et 18, Guillaume Erner.